féminin. Au féminin. Au féminin. Féminin.
Auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VOA Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir. Avec moi dans le studio, Fatouma Kalala Halimassi, ma consoeur et productrice de La Voix de l'Amérique, congolaise, hein, on le précise, de la RDC. Oui. Merci beaucoup Fatouma d'être avec nous.
Merci beaucoup Nathalie pour l'invitation.
Alors la femme africaine et la religion, c'est ce dont on va parler. Une mère a-t-elle un rôle particulier dans la transmission des valeurs religieuses au sein de la famille? Est-ce que selon vous ces valeurs varient en fonction du milieu social? Donc on sait que la plupart des femmes de la diaspora africaine à Washington sont généralement très impliquées dans les mouvements religieux. Et c'est ce qui m'intéresse un petit peu chez vous, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Donc peut-être à travers vous, on va essayer de voir un petit peu le rapport des femmes à la foi et à la religion dans un milieu particulier. Et ma question c'est, est-ce un appel de la société américaine, qui en fait est également très pieuse, hein, comme on le sait, la société américaine, ou est-ce que c'est un besoin finalement? Donc on arrive dans un environnement nouveau, est-ce que là on a vraiment besoin de plus s'affirmer par rapport à sa foi?
Ce n'est pas s'affirmer, mais c'est transmettre nos valeurs dans un monde tout à fait inconnu, où vous ne voulez pas que vos enfants soient perdus. Vous voulez que ce que vous avez appris à la maison, au pays, soit transmis dans la société américaine, ici à Washington. Mm-hmm. Vous voulez que quand vous ne serez plus là, que vos enfants aient quand même quelque chose. Nous voulons aussi, pas pour autant s'affirmer, mais nous voulons garder au moins notre culture, nous ne voulons pas être perdus.
C'est un repère. Oui. Donc vous êtes chrétienne, catholique. Lorsque vous êtes arrivée, est-ce que vous êtes allée directement dans la petite église de votre propre quartier, ou est-ce que vous êtes arrivée avec des connaissances et on vous a dit, il faut aller dans telle église, il faut voir telle personne, c'est la communauté congolaise, etc.
Je suis allée directement dans l'église du quartier. Mais ce qui était difficile, c'était de s'intégrer. Il y avait barrière de langue. Nous savons prier en français, en lingala. Mais arrivé aux États-Unis, immédiatement, je ne pouvais pas prier en anglais. Donc nous voulions au moins prier comme nous le faisions à la maison, au pays. Alors nous sommes rassemblés en tant que Congolais. Au Congo, nous avons le rite congolais, le rite zaïrois, qui a été admis par l'Église catholique. Mais ici, on ne le connaissait pas. Alors, mm-hmm. Il fallait expliquer aussi à l'Église catholique américaine comment ces rites zaïrois s'est fait. Alors, il faut apprendre aux enfants comment on le fait. Il faut leur dire qu'on ne commence pas par la rémission des péchés. On le fait après avoir écouté la parole. On a dit que ici, vous allez présenter les offrandes juste comme cela. Mais au Congo, on ne le fait pas comme ça. Pour offrir des offrandes, il faut danser. On amène la danse. Donc, tout ceci là, il fallait expliquer pourquoi nous sommes arrivés à cela.
Est-ce que ça veut dire créer aussi sa propre église?
Nous n'avons pas créé une propre église, mm-hmm. mais en tant que Congolais, nous allons vers les responsables de l'église catholique ici à Washington. Oui. Nous leur présentons comment nous voulons prier, mm-hmm. comment nous voulons aussi intégrer les autres membres qui viennent, qui ne se sentent pas déboussolés quand ils viennent. Parce que tu sais, quand tu vas dans un pays étranger, tu es déboussolé, tu ne sais même pas comment t'intégrer. Alors nous voulons garder le nôtre parmi dans l'église et qui ne se perdent pas, qui se sentent quand même en famille. C'est dans la presse.
Le pape François a appelé les pèlerins venus place Saint-Pierre pour la cérémonie de l'Angélus à être toujours joyeux, même quand les événements ne vont pas dans le sens que l'on souhaite. Il a souligné l'importance de tenir les enfants à l'écart des disputes entre adultes. Quand ils sont témoins de parents qui se disputent, ils souffrent. Ne les rendez pas tristes, a-t-il estimé après avoir rencontré des jeunes défavorisés. Autre nouvelle de C'est dans la presse, une web radio destinée à la communauté LGBT a vu le jour en Tunisie, où l'homosexualité reste illégale et réprouvée. Shams Rad vise à sensibiliser sur l'homophobie et à défendre les libertés individuelles, a déclaré le directeur Boudi Beladi. L'article 230 du code pénal condamne l'homosexualité d'une peine allant jusqu'à 3 ans de prison. Monsieur Beladi a indiqué avoir reçu des milliers de messages d'insultes, de haine et de menaces, y compris de mort. Fatouma, votre époux est catholique, j'imagine.
Il est catholique, voilà. Il a été le président des catholiques africains ici aux États-Unis.
Voilà, donc très catholique, on va dire. Oui. Voilà. Est-ce que vous auriez pu épouser un homme qui n'aurait pas été catholique, qui aurait été musulman ou voire même athée?
Je ne sais pas si cela devrait se présenter, je ne sais pas. Mais en venant ici, j'étais très impliquée au Congo avant de venir aux États-Unis. Mes responsables à l'église m'avaient présenté cela comme une inquiétude. Ils m'avaient dit, Fatouma, quand tu vas là-bas, ne te perds pas. Il faut rester dans la religion. Et je suis arrivée et j'ai rencontré quelqu'un qui était aussi très impliqué dans l'église.
Donc c'est là que vous avez rencontré votre époux, c'est aux États-Unis?
Oui, même si on se connaissait avant au Congo, on s'était vu au Congo, mais ici aux États-Unis qu'on a commencé. Il était très impliqué et je l'accompagne quand il y a des manifestations, même si je ne suis pas physiquement présente, mais dans les coulisses, je suis toujours là avec lui.
Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier en relation avec la religion catholique en RDC, d'où vous venez, qui ferait que les femmes soient particulièrement impliquées dans cette religion?
Ce n'est pas que les femmes sont particulièrement impliquées dans la religion catholique, elles sont plus chrétiennes. Vous savez que les femmes, nous sommes les piliers de la famille. Alors nous voulons soutenir nos familles ici aux États-Unis et aussi dans la religion, parce que quand nous sommes perdus, nous n'avons qu'un autre souhait, un autre soutien, c'est que l'Église, c'est là-bas que nous nous tournons. Et surtout pour nous, quand nous venons dans un pays étranger, ce sont plus les femmes qui viennent avec leurs enfants. Elles sont plus seules avec les enfants, donc elles se tournent plus à l'Église pour bien éduquer les enfants et pour aussi, comme je le disais au début, pour faire passer le message et le garder hors de troubles que nous avons aussi constaté ici en Amérique.
C'est la grande crainte, ça.
C'est la grande crainte.
Vraiment, la religion, ça aide beaucoup. C'est un soutien.
C'est un soutien et ça épargne beaucoup de dégâts pour les enfants. Les garder dans l'église pour qu'ils ne se troublent pas dans la rue.
Comment autonomiser les populations les plus vulnérables en Afrique, notamment les personnes victimes d'un handicap? Voici un élément de réponse dans un reportage d'Emmanuel Julntap qui a rendu visite à un groupement de dames handicapées à Yaoundé qui sont désormais actives et autonomes.
C'est au lieu dit Escale Manguier qu'est implanté Handicap Home. Une vingtaine de femmes handicapées formées à divers métiers ont été regroupées sur le site. Marie-Crescence Epi vit avec un handicap. Elle est aussi déléguée de Handicap Home à Yaoundé.
Papa Roger Mila nous a offert 16 ateliers. On ne paie ni loyer, ni courant. Nous sommes libres de nous-mêmes. On travaille selon les commandes.
Ces femmes handicapées occupent des conteneurs soigneusement aménagés en salon de coiffure, restaurant boutique, atelier d'artisanat et de couture. Corinne et Christelle, les deux plus jeunes de l'atelier de couture, reviennent de loin.
La petite couture, ça m'aide à gérer mes petites choses que j'en ai besoin.
Je résous mes problèmes par rapport à cette structure. C'est un peu comme quand j'étais à la maison.
L'on en dirait autant de Monique qui, béquille aux aisselles, coiffe à merveille et forme des personnes valides et invalides depuis 5 ans à la coiffure.
Présentement, j'ai 3 qui suivent la formation. Je suis autonome, je me sens à l'aise.
L'ex-footballeur international Albert Roger Mila s'est mis aux côtés de cette catégorie de Camerounais à travers sa fondation Cœur d'Afrique. Jean Keller Côté, directeur de projet de la fondation Cœur Afrique.
Nous avons une grosse composante orphelins enfants vulnérables. Nous avons une composante enfants de la rue. Nous avons les personnes âgées. Nous avons une importante composante de personnes handicapées. Nous avons de façon spécifique les anciens sportifs en situation de vulnérabilité que nous accompagnons.
Vous pouvez suivre ce reportage d'Emmanuel Juntap dans son intégralité sur voaafrique.com. Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Fatouma Kalala Alimassi. On parle de la religion, du rapport des femmes avec la religion, particulièrement en Afrique, particulièrement dans le cas de la diaspora, quand on vient d'un autre univers et qu'on arrive par exemple dans une ville comme Washington. On va dire, les États-Unis, c'est connu, c'est les protestants qui sont, on va dire, majoritaires.
Oui.
Je ne sais pas si dans votre milieu en RDC, vous étiez peut-être majoritaire ou je ne sais pas, on sait qu'il y a beaucoup de musulmans aussi. Également dans certaines régions. Mais lorsque vous arrivez ici, vous êtes minoritaire, en fait.
Oui, en fait, nous sommes minoritaires quand nous arrivons ici aux États-Unis. La première des choses, c'est la langue, qui est une barrière.
Ouais.
Et quand nous sommes arrivés, les catholiques, facilement, ils se perdent. Parce que nous ne savons pas nous intégrer dans l'Église catholique, là où c'est l'anglais qui prime pour les francophones. Et les protestants, dans leur cas, c'est facile. Ils forment des petits groupes et facilement, tu vois, il y a des groupes qui se forment, des nouveaux pasteurs qui naissent et facilement, on les intègre. Mais les catholiques, il faut aller, c'est hiérarchisé. Donc, tout doit être hiérarchisé. Vous ne pouvez pas créer une église seulement de catholiques si vous n'avez pas eu une autorisation. Donc là, on se perd facilement. C'est difficile de voir un catholique s'est tourné en protestant, que d'un protestant s'est tourné en catholique. Donc là, on s'y perd facilement, mais nous tenons le coup.
Tout à l'heure, vous avez parlé des enfants. Vous les élevez bien dans la tradition catholique, mais si plus tard, ils vous disaient « mais je veux changer de religion, je veux devenir musulman, je veux devenir bouddhiste ou je ne crois pas en Dieu ou autre », comment est-ce que vous réagiriez par rapport à ça?
Ils sont libres, mais nous essayons de notre mieux pour les moments qui sont encore sous notre éducation. Nous essayons aussi de les montrer, de leur montrer le chemin. Donc, quand ils seront adultes, ça sera à eux de choisir, comme à nous aussi. Nos parents ont fait leur travail, ils nous ont montré le chemin. Nous sommes restés dans la religion catholique, mais il y en a dans ma famille grandi dans l'église catholique, mais à présent, ils ne sont plus catholiques. Ils ont embrassé d'autres...
Ah oui, on peut parler du petit garçon. Vous m'aviez expliqué que le petit garçon, il aime beaucoup lire la Bible. Il est tout petit, il a 5 ans, c'est ça?
Il est tout petit, il a 5 ans.
Et en fait, c'est un fervent lecteur, mais pas seulement de la Bible. Finalement, il adore lire, mais c'est un petit peu grâce à la Bible, en quelque sorte.
Grâce à la Bible, ça, je ne sais pas. Il était frustré parce qu'il ne savait pas encore lire parmi... Un de ses amis, à 4 ans, qu'on savait lire. Je lui ai dit que c'est pas difficile, tu pourras le faire. On a commencé et à 5 ans maintenant, il les lit. Chaque soir, il est là devant sa Bible, il me lit chaque soir. Et puis, il choisit. Il me dit, maman, aujourd'hui, je veux lire ça. L'histoire de la femme sage.
Fait, c'est des histoires qui l'intéressent.
Oui, ce sont des histoires qui l'intéressent, mais il est très vraiment passionné à la lecture. Et puis, il y a une autre chose. Quand j'étais au pays, notre papa, chaque jour, nous bénissait. La nuit avant de dormir. Signe de la croix sur le front. Et quand nous sommes mariés, j'ai dit à mon mari, tu sais, on doit faire passer ça aux enfants. Nous devons le faire. Avant de dormir, ils ont droit à une bénédiction. Et je vois mon petit aussi le faire à sa sœur et bénir sa sœur. Donc, j'ai dit que nous avons au moins accompli quelque chose. Si nous pouvons faire passer quelque chose que nous avons reçu de nos parents aux enfants et... Ça, c'est au moins accompli ici aux États-Unis, dans un monde tout à fait...
Et là, c'est un très bon exemple. En tant que maman, vous avez transmis la tradition, finalement, à travers votre papa.
Tout à fait.
Si jeunesse pouvait...
Les jeunes de l'Est de la RDC, principalement à Goma, se plaignent du coût élevé de la dot qui pousse nombre d'entre eux à opter plutôt pour le concubinage. Charlie Kazereka a donné la parole à des jeunes de la capitale du Nord Kivu, dont notamment John Mukengera, pour qui le règlement de la dot a été très difficile.
La dot est exorbitante aujourd'hui et il n'y a pas de travail conséquent pour permettre à la personne à réunir tout cet argent pour verser cette dot. Et pour le moment, varie entre 2000 et 2500 ou 3000.
Sans emploi ni activité stable, les jeunes qui aspirent au mariage sont découragés par cette dot coûteuse. Fiston cohabite avec sa femme depuis 8 ans. Ils ont eu ensemble 4 enfants. Il n'a pas réussi à réunir la somme de 2000 $ demandée par sa belle famille.
Non, moi je n'avais pas donné la dot normalement. Cette dernière a véritablement perdu sa valeur. Elle est devenue un fonds de commerce. On a donné plus d'importance à l'argent. La somme qui m'a été demandée était trop lourde pour moi. Je n'ai pas de travail.
Pour M. Bahati, la trentaine, coiffeur dans un salon de coiffure ici à Goma, lui aussi, père de 4 enfants, qui vit avec sa conjointe dans la même situation, lui pense que les parents qui ont des filles doivent considérer la dot comme un symbole et non une occasion pour s'enrichir.
L'affaire de la dot est devenue anormale. Moi, je dirais aux parents qui ont encore des filles sous leurs droits, la dot, c'est juste un symbole et non pas une revanche pour s'enrichir en énumérant toutes les dépenses.
Madame Agapé, la trentaine, elle a vécu 6 ans avec les pères de ses 3 enfants, qu'il a ensuite abandonné. Elle pense que si la dot avait été versée à sa famille, son ex-mari n'aurait pas agi ainsi. Aujourd'hui, elle prend seule en charge ses 3 enfants et regrette les choix qu'elle avait faits.
La dot donne de la valeur à la femme et pour les hommes, le fait de donner la dot à ta belle famille ne veut pas dire que tu as le droit de maltraiter ton épouse.
Alors, quelle valeur peut-on donner à la dot? Difficile à trancher. D'autres voulaient que la pratique soit uniformisée par une loi, mais avec plus de 400 groupes ethniques comptés en RDC, avec bien sûr différentes coutumes, c'est une mission difficile, pense Justine Massika, cadre de la société civile en RDC.
Normalement, la loi congolaise, elle est vraiment très claire. On faire à la coutume. Et c'est donc difficile qu'on puisse dire que la loi peut être uniforme. Et je crois que c'est à nous, de la société civile, de sensibiliser tout le monde pour qu'il sache que la dot, c'est vraiment un symbole.
C'était un extrait du reportage de Charlie Kazereka sur la dot en RDC, que je vous invite à voir sur voaafrique.com.
Et si la jeunesse pouvait.
Fatouma Kalala Alimassi, vous avez entendu ce reportage, une petite réaction rapidement. J'imagine que vous, en tant que catholique, n'est-ce pas, en tant que chrétienne, vous êtes mariée à l'église, hein, il n'y a pas de doute. Comment vous réagissez finalement par rapport à cela?
La dot au Congo, oui. En Afrique en général, est devenu le commerce. Ce n'est qu'un symbole, mais demander autant d'argent pour un jeune qui vient juste de commencer, je trouve ça c'est vraiment...
Vous avez vu, du coup, ils ne se marient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de se marier, en fait.
Tout
c'est
à
ça.
Fait, tout
c'est
à fait.
C'est triste. Ils ont des enfants.
Ils ont des enfants, ouais. Ils sont là en concubinage. Qu'est-ce qu'on veut en soi? Le mariage ou bien les sommes, là?
Les fêtes religieuses en famille, Fatouma, on peut en parler à Washington, notamment les fêtes de fin d'année, le rôle de la mère. Là, j'imagine qu'il y a beaucoup de travail en fin d'année. Et finalement, qu'est-ce qui est différent par rapport à la manière dont vous allez les fêter en RDC? Bon, mis à part le temps, effectivement, on a le soleil là-bas, ici on a la neige. Hein.
Oui, j'ai été choquée quand j'étais arrivée ici aux États-Unis par une question. Quelqu'un m'avait posé la question « Are you ready for Christmas ?» Es-tu prêt pour...
C'est toute une affaire ici. Oui,
oui, c'est toute une affaire. Oui. Selon moi, je me demandais, est-ce que je me prépare comme pendant la période
mais
de l'Avent?
Mais on se prépare au...
Est-ce qu'on se prépare comment?
Au mois
en tant que chrétien ou bien en tant que matérialiste? Est-ce que Et la personne m'a dit, oui, j'ai la liste ici, je dois acheter ça. Pour ça, je n'ai pas encore fini.
C'est le côté matériel.
C'est le côté matériel.
Le côté pratique.
Alors,
de la chose,
oui. Mais on oublie l'essentiel.
Merci.
Nous oublions l'essentiel. Et en tant que... mère de famille, qu'est-ce que je veux transmettre à mes enfants? Ce n'est pas pour les cadeaux que nous fêtons Noël. Oui. Nous devons penser ce à quoi nous a amené à cette fête de Noël. Mmh. Ne pas tomber dans le matérialisme.
Les États-Unis, c'est le matérialisme. On est dedans, hein, en plein dedans.
Oui. On est en plein dedans, mais nous essayons de traduire cela d'une autre manière. Oui. Je donnerai toujours mon exemple particulier. Ce que nous essayons de montrer aux enfants, c'est d'aller vers les démunis, ceux qui n'ont pas eu cette occasion d'avoir des cadeaux toute l'année. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Mmh. Aller par exemple dans l'église où ils ont des événements où ils vont partager à manger ou bien des cadeaux aux enfants. Aller amener les enfants et voir comment les autres se réjouissent.
Ce qui peut être du reste un présent, un cadeau pour l'enfant, pour votre propre enfant, de lui apprendre à partager, à être solidaire, à être humble. C'est un cadeau, ça, offert à l'enfant.
Oui, tout à fait.
Entre parenthèses.
Le 13 décembre 2017, la Cour militaire du Sud Kivu en RDC a rendu son verdict dans le procès de 20 personnes accusées de meurtre et viol de 42 petites filles à Kavumu à des fins fétichistes. Les prévenus sont présentés comme des membres de la secte Djeshi la Yesu, qui signifie armée de Jésus en Kishwali. 12 ont été condamnés à la peine de servitude pénale à perpétuité à l'issue du verdict. Notre correspondant Ernest Mouero a tendu son micro à Maître Charles Tchitchoura, porte-parole du collectif des familles des victimes.
Mon sentiment, c'est le sentiment des parents des victimes. Avec cet arrêt, la cour militaire vient quand même de faire un pas vers les personnes qui se croient intouchables. Et avoir le verdict, eh bien, je crois que c'est une satisfaction, d'autant plus que les parents des victimes ont attendu plus de 3 ans pour voir s'ouvrir au fait ce procès.
Pour l'hôpital des Panzi du docteur Denis Mukwege, qui a recueilli et soigné en son temps les petites filles abusées à des fins fétichistes par les adeptes du député Frédéric Batumike, la satisfaction est légitime car ces fillettes ont vécu l'enfer. Docteur Antoine Fundiko, médecin chef de staff de l'hôpital des Panzi.
Comme personnel soignant, c'est un sentiment de satisfaction parce que ce que nous avons vu, on ne l'a jamais vu ailleurs. Des destructions des organes génitaux des enfants. Quelle mère de famille peut accepter que sa petite fille soit abusée de cette sorte-là? C'est une bonne chose que les auteurs de ces actes ignobles soient punis. Je pense que c'est un signal fort pour tout ce qui s'adonne à ces actes.
Certains habitants de Kavumu ne cachent pas leur satisfaction.
Par rapport au problème des viols et violences, surtout sur les enfants, le travail a été accompli. C'est une joie immense parce que la population attendait seulement les résultats. Vraiment, nous en sommes fiers.
Vraiment, l'ambiance est à gogo. Vous-même, vous êtes témoin. Parce qu'on a déniché les malfaiteurs, on vient de les condamner.
Retrouvez le résumé de ce verdict rendu le 13 décembre à Kavumu en RDC dans un reportage d'Ernest Mouero sur voafrique.com. Fatouma, est-ce que vous pourriez envisager, dans un futur très lointain, une religion universelle, une seule religion? On dit toujours qu'il y a un seul Dieu et il y a plusieurs religions.
Il n'y a qu'un seul Dieu. Pourquoi c'est partagé? Pourquoi aller...
Donc vous seriez pour?
Je suis pour.
Mais si c'était tout autre chose que le catholicisme ou que l'islam ou que le bouddhisme ou que l'animisme, si on donnait un autre nom à cette religion, ça vous plairait?
Oui, ça me plairait parce que je me dis, nous tous, nous visons seulement un seul Dieu. Pourquoi ne pas se mettre ensemble?
L'image de Marie, la maman de Jésus, qu'est-ce qu'elle véhicule exactement?
Elle véhicule l'acceptance. N'est pas savoir où tu vas, mais tu acceptes. C'est l'obéissance, selon moi et selon ma croyance.
Pas les yeux bandés quand même?
Non.
Fatouma Kalala Limassi, un grand merci pour avoir participé à cette émission Le Monde au Féminin. Un très grand merci aussi à Sims, à la production également, à Wagner Robert et bien sûr le plus grand des merci du monde à tous nos auditeurs, nos auditrices. À très bientôt. Au revoir.
Arrête.